One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
SLP, salut les PD, puisque t'es pas sage, on va recommencer.
Ouais.
Salut Ghislain.
Naughty boy.
Salut Ariane.
Yo gay.
Ouais, par exemple, c'est pas mal. Ouais, ouais, ouais. La dernière fois, tu nous as parlé roumain. Et là, c'est quoi? C'est...
Là, je te faisais... Parce que tu m'as appelé comme ça après par mail.
C'est vrai, c'est vrai. Rappel à notre ami auditeur, d'où ça vient tout ça. Freak Zone, Janet Jackson, ouais. Qu'on a passé il y a un petit moment déjà. Homophobie, on continue sur notre lancée, on l'a déjà évoqué lors de précédentes émissions, et sur l'aspect plus homophobie d'État, aujourd'hui, petit glissement, l'homophobie, comment elle est véhiculée au quotidien, au travers des médias, au travers de,
du vocabulaire quotidien, comme on l'a pu l'entendre dans notre cher générique.
Du monde culturel, etc. Voilà, quoi.
Du bon sens près de chez vous.
Du bon sens près de chez vous. Et bah, jingle, et puis derrière, moi j'ai envie de reparler de quelque chose qui a agité le landerneau médiatico-politique deuxième semestre 2010. Vous vous souvenez de ça? Jingle, on en parle après.
La émission.
Alors, est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Non?
C'est pour ça que j'ai commencé par Yo, moi. Hein. Je suis prête.
Ouais, donc, ouais. Bah, évidemment, section d'assaut, groupe de rap français. Donc, il y a eu une petite polémique. Je pense que c'est intéressant de refaire un peu l'historique de ce qui s'est passé parce que c'est, je trouve, très, très enrichissant et porteur de tout un tas de choses autour de l'homophobie.
Il y a à la fois le discours qu'ils ont porté, eux, dans leurs paroles et puis comment ça a été traité au niveau médiatique.
Exactement.
Et leurs paroles de disques, de chansons.
Ah oui, je parlais de paroles de chansons, ouais.
Ouais, bah, je vais en évoquer quelques-unes.
Ouais, vas-y, Philippe.
Alors, c'est dans le magazine International Hip Hop, qui était sorti en juin 2010, que naît la polémique de Section d'Assaut autour de l'homophobie. Dans une interview signée Nat V, on va reparler d'elle, on lit ses propos attribués à l'EFA, qui est un des membres du groupe. J'ouvre les guillemets. « Pendant un temps, on a beaucoup attaqué les homosexuels parce qu'on est homophobe à 100% et qu'on l'assume. Mais on nous a fait beaucoup de réflexions et on s'est dit qu'il était mieux de ne plus trop en parler parce que ça pouvait nous porter préjudice. Imagine, il y a même des gays qui viennent nous voir. On peut donc pas se permettre de dire que pour nous, l'homosexualité est une déviance qui n'est pas tolérable. » Donc après ces propos, quelques mois plus tard, une partie de ces propos-là, notamment la dernière phrase, sera démentie, soi-disant, par l'EFA, ainsi que par Adams, sur son compte Twitter. Adams, c'est un autre membre du groupe. La journaliste qui a interviewé Section d'Assaut a la haine contre ce groupe, tout simplement, disent-ils. C'est complètement faux. Cette interview a été modifiée et les paroles de la Section d'Assaut ont été mal rapportées. Cette journaliste incriminée, Nat V, ayant été accusée d'avoir mal rapporté l'interview, réitère ses allégations et dit avoir transmis, le 22 juin, c'est-à-dire une douzaine de jours après l'interview, les bandes audio à la maison de disques Sony BMG de Section d'Assaut, qui, en fait, refuse de se prononcer sur le sujet. Quelques jours plus tard, l'EFA, donc le membre du groupe incriminé, par le biais d'un communiqué officiel, explique. Je me suis exprimé lors d'une interview pour le lancement de l'album sur l'homosexualité. Les propos que je reconnais avoir tenus ne sont effectivement pas acceptables et je tiens avant tout à m'en excuser auprès des gens que j'aurais pu blesser. Je me suis rendu compte en vérifiant la signification du mot homophobie que j'avais sorti une connerie plus grosse que moi. C'est vrai que j'ai grandi dans l'ignorance de ce que ce terme signifie vraiment. Mais ni moi ni le groupe ne sommes homophobes. L'homosexualité est quelque chose qui est très loin de nous, qui avons grandi dans un milieu macho, et on utilise des mots qui s'y rapportent à tout bout de champ, sans forcément tous les maîtriser. Le groupe a eu beaucoup de succès très vite, et c'est vrai que nous prenons conscience que nos paroles ont désormais un retentissement important. C'est la raison pour laquelle je voulais revenir là-dessus et clarifier les choses. Dans le magazine Les Inrocks, Les Inrocuptibles, il confirme qu'il n'est pas homophobe et qu'il se tient contre toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit. Il précise également que certains propos rapportés dans l'interview accordée au magazine international hip-hop n'ont jamais été prononcés, comme la phrase « c'est une déviance qui n'est pas tolérable ». Si aucun des trois derniers albums du groupe ne contiennent de paroles discriminatoires, on peut trouver des propos homophobes dans certains morceaux du troisième prototype datant de plusieurs années. Alors là, je renvoie notamment, vous trouverez sur le net si vous voulez, un petit florilège. C'est vrai que les premiers albums sont nimbés de propos homophobes.
Ouais, d'appel au meurtre, ce genre de choses.
Par exemple, alors, notamment, je crois qu'il est grand temps que les PD périssent, coupent leur pénis, super. Lointaine est l'époque où les homos se maquaient en scred. Ça rime, ça c'est sûr. Maintenant, se galoche en ville avec des sapes arc-en-ciel, mais vas-y bouge, toutes ces pratiques ne sont pas saines. Bon, si vous en voulez d'autres, vous allez sur le net. À la suite de cette polémique, donc fin septembre et début octobre 2010, plusieurs villes françaises, Angoulême, Clermont-Ferrand, Strasbourg, Saint-Étienne, Marseille, on ne va pas toutes les citer, mais un paquet quand même, ont annulé les spectacles de section d'assaut. Afin de faire diminuer la polémique, les membres du groupe ont rencontré, selon leur manager, des associations de lutte contre les homosexuels, des associations de lutte
contre
l'homophobie, et ont affirmé avoir pris conscience de la gravité des propos qui ont été retranscrits. On comprend cette polémique, même si beaucoup de choses ont été déformées et sorties de leur contexte, mais si les villes nous annulent par peur, qu'elles sachent qu'il n'y a jamais eu aucun problème lors de nos concerts. Super. Le 23 novembre 2010, la journaliste, donc Nadvé, la journaliste incriminée de International Hip Hop, s'exprime une dernière fois à son tour dans le magazine Les Inrocks via un droit de réponse. Alors, en qualité d'auteur de l'interview de Section d'Assaut, publiée dans International Hip Hop en juin 2010, je souhaite réagir à l'article L'EFA de Section d'Assaut, l'homosexualité condamnée dans les milieux machos, publié sur le site des Inrocks le 18 octobre 2010. Cet article induit que mon interview comportait des propos qui n'auraient jamais été prononcés par les membres du groupe au cours de notre entretien. Or, je me suis tenu à une retranscription fidèle et sincère des propos de Section d'Assaut. Comme tout journaliste, j'ai traduit en langage écrit certaines phrases exprimées en langage parlé qui auraient été incompréhensibles par les lecteurs. Traduire ne signifie pas inventer. Au contraire, traduire impose de respecter le sens des propos recueillis, et c'est précisément ce que j'ai fait. Aussi, il ne peut pas m'être reproché d'avoir trahi le sens ou aggravé la portée des mots employés au cours de cet entretien. Il n'est donc pas tolérable de me faire porter la responsabilité de vives, nombreuses et compréhensibles réactions d'indignation suscitées par cette interview, dont chaque phrase repose sur des propos exprimés au cours de l'entretien et parfois les allège.
Bon.
Donc voilà, c'est symptomatique quand même de beaucoup de choses. Alors, est-ce que on plaide la bêtise? Est-ce qu'on plaide l'ignorance? Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Moi, il y a un truc qui m'embête.
Je vais
revenir à ma connaissance pointue de plusieurs langues européennes. En italien, il y a une expression qui dit traduttore traditore. Celui qui traduit trahit.
Mm-hmm.
C'est le fait même de traduire induit parce que donc voilà, certains langages parlés passés au langage écrit, on dénature quelque chose. Mais moi, ce qui me pose question, c'est les discours homophobes, même si c'est pas suivi des faits, c'est puni par la loi, théoriquement. Moi, je me pose la question, comment ça se fait que si la journaliste avait conscience de la portée des propos, qu'elle ait accepté d'en être le porte-voix. Je comprends pas que ce soit, qu'on puisse diffuser ça.
Donc toi, finalement, ce que tu remets en question là-dedans, c'est le traitement médiatique du truc et quelque part, le manque de déontologie de la journaliste qui rapporte ses propos.
Pour moi, c'est pas un problème de déontologie, puisque elle, ce qu'elle pose en déontologie, c'est la retranscription fidèle des échanges qu'elle a eus avec le groupe. Mmh. Donc pour moi, c'est pas en tant que journaliste, c'est en tant que citoyen, qu'est-ce que ça veut dire de faire porte-voix à des propos qui sont punis par la loi ? Quand c'est des propos qui sont tenus sur des médias où on est en direct, bon, ça n'engage que la personne qui parle. Mais là, c'est retranscrit. Elle a enregistré, elle a envoyé la copie à la aux maisons de disques et elle a fait imprimer. Enfin, et même pas elle seule. Je veux dire, même le Hip Hop International. Est-ce que Hip Hop International est un porte-voix du milieu rap connu pour son homophobie en général, souvent, même si elle est souvent plus larvée que ça. Mais il y a eu plein d'autres groupes ou de rappeurs français qui marchent plus en solo qui ont pu tenir ce genre de propos, qui ont eu le même genre de problème. Mais c'est vrai que ça n'avait pas eu le même retentissement que ce qu'on a vu cet été.
Mais c'est peut-être justement assez... moi, ce que je retiens là-dedans, si tu veux, c'est que c'est tellement ancré dans sa façon de faire, dans sa façon de vivre, dans sa façon d'être, qu'il ne s'est même pas rendu compte de ce qu'il pouvait dire. C'est ce qu'il nous dit, en fait. Et il nous dit, et après, je me suis renseigné pour savoir ce que c'était que homophobie, et quand j'ai eu le renseignement, je me suis rendu compte que c'était dégueulasse, machin, et tout ça. Alors, est-ce que c'est vrai ? Pas, on s'en fout.
En tout cas, je conseille pour qu'ils disent ça, parce que je trouve que c'est un... Moi, je trouve ça super sympa qu'ils disent que homophobie et machisme dorment dans le même lit. Moi, j'en suis personnellement persuadée, il n'y a pas de souci, mais tu ponds pas ça tout seul. Pour moi, c'est un discours qui est venu de la critique, et c'est pas sûr que ce soit intériorisé, compris.
Oui, je suis d'accord. Mais là, ce qui nous intéresse aujourd'hui, enfin, moi, ce qui m'intéresse dans le cadre du thème, en fait, qu'on veut développer, c'est. Que c'est quelque chose qui est tellement normal de dire que l'homosexualité c'est une déviance, qu'il faut tuer les PD, que... Enfin tu vois, c'est quelque chose qui est tellement ancré dans sa vie que ça lui paraît pas tout à fait incroyable de dire ce genre de choses-là. Tu vois, et c'est là où, où on parle d'homophobie au quotidien et d'homophobie tellement ancrée qu'elle est... Bon, et alors, quoi ? Enfin, tu vois ?
Bah, il sent, et quand même, sur le côté, sur le discours qu'il tient dans Le Repentir, il dit que voilà, l'homophobie est quotidienne. Il le dit qu'on l'utilise, on l'imagine très bien, PD, enculé, tapette, tapiole, etc.
Ça ressemble à une défense, mais en même temps, moi, il y a un truc qui me pose problème, c'est-à-dire qu'à un moment, effectivement, il se défend sur homophobie. Il utilise ce terme-là, il dit qu'il ignore ce que c'était. Mais en fait, à aucun moment, il parle d'homophobie. Dans leur texte, c'est beaucoup plus violent que ça. Donc, à la limite, tu peux ignorer ce que signifie homophobie, mais quand tu parles des PD qui doivent se couper le pénis ou un truc comme ça, je suis désolé, c'est des propos, c'est les propos incriminés, c'est ça. C'est pas le problème de savoir ou pas ce que signifie homophobie. C'est
un moment de stigmatiser des personnes. Ils n'avaient pas été attaqués pour leur homophobie, apparemment, avant. L'interview. Donc, ce dont il fallait se défendre, c'était d'avoir tenu ce propos-là en interview et d'avoir dit on est 100% homophobe, on le revendique, on est fier. Et donc voilà, ça pose la question de qu'est-ce qu'on permet de véhiculer sous couvert de la liberté de création. Moi, je suis pour la liberté de création, mais quand on écoute une chanson à la radio ou sur un disque, est-ce que. Enfin, je sais pas, en France, j'ai pas fait attention sur des disques français qui est écrit explicit lyrics, parental advisory et machin.
Non, ça existe pas. Voilà. Mais de toute façon, moi, je pense que dès qu'on tient une parole publique, et là, on parle de l'interview, hein, pas des disques, on se doit de faire attention à ce qu'on dit. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire, on doit faire gaffe à ce qu'on raconte dès qu'on a une parole publique, dès qu'on a un groupe qui est reconnu, ce qui était le cas lorsqu'il a donné cette interview-là. On a une parole qui porte, on a une parole publique qui porte. Donc, on doit faire gaffe à ce qu'on dit. Et ce genre de propos n'est pas acceptable, ça c'est clair. Après, le fait que ça ait été médiatisé, c'est justement peut-être parce que les gens, ils ont tellement intégré que c'était normal ou que c'était franchement pas forcément grave de tenir ce genre de propos-là, qu'ils l'ont laissé passer. Et on rejoint ce thème de l'homophobie au quotidien. Les choses qu'on dit qui sont très homophobes, mais qui sont tellement... Voilà, c'est le bon sens près de chez vous, c'est les habitudes, c'est qu'on se rend pas compte de ce qu'on dit, qu'on se rend pas compte de la gravité des propos que l'on tient.
D'ailleurs, quelque part, ils le reconnaissent. Après, voilà, est-ce que véritablement ça, quelque part, ça va faire sens, ça va leur servir de leçon, ça reste à voir, quoi. Oui, c'est pas certain. Et est-ce qu'on sera pas à nouveau confronté à ce genre de choses? Ça va être intéressant. Suivons ça de près. On fait une pause musicale, hein, et puis on revient en plateau après.
Yes.
Alors ça, c'est Chroméo
et Juliette.
Fancy Footworks. Alors, moi, j'adore Chroméo, ce groupe.
Ouais,
et,
c'était vachement
et,
bien.
Et si tu veux, il n'y a pas très très longtemps, j'ai vu un film hétéronormé à mort, mais que j'ai trouvé passionnant. Ça s'appelle Sexy Dance 3. Je vous le recommande.
Oui.
Et donc, dans la bande-son, il y a Chroméo et ce titre notamment. Et franchement, alors l'histoire vaut pas un clou, mais il y a des putains de parties chorégraphiées qui sont.
Mais tu es putophobe ?
D'enfer. Non, je ne suis pas putophobe.
Tu ne dis pas putain alors,
mais
s'il
si
te plaît.
Dis putain,
tu ne dis pas enculé non plus.
Si
dis
je dis putain, je dis pédé, mais.
Tu dis
voilà,
pas putain,
c'est
tu
sans
dis
connotation
putain
péjorative.
Oui.
Excellent voilà enchaînement.
T'as vu un peu comment je te sauve la vie.
SLP, on parle homophobie, et forcément, quand on parle homophobie, rapidement, on a...
Christine.
À la bouche.
Je te laisse Christine dans ta bouche.
Vas-y, donc...
Eh bien voilà, je vous ai concocté un petit, comment on va dire, un petit florilège. Là, on peut dire un pot pourri, je crois.
Un pot pourri.
Là, okay. Voilà, un pot pourri. Disons un petit résumé d'une émission qui passait sur le câble. J'ai pas pu avoir les références, c'est bien dommage. Et c'est une émission autour du film Le baiser de la lune.
Et non pas le poisson de la lune.
Et non pas le poisson de la lune. Donc Le baiser de la lune.
On rappelle ce que c'était, le baiser de la lune.
Bon, elle va le rappeler. Ah d'accord. Dans le son. Et en fait, c'est une autour de la table, on a Christine Boutin, on a Ménard et on a Lelouch, dont j'ai oublié le nom, mais c'est.
C'est pas grave.
Il s'appelle Lelouch, c'est le mari de Vanessa Demouy.
Et c'est pas Claude.
Non, c'est pas Claude, c'est le mari de Vanessa Demouy.
J'adore qu'on présente les hommes par. J'adore. Vas-y, refais-le, s'il te plaît.
On savait que ça te plairait. On écoute ?
Allez !
Le baiser de la lune, c'est un film de 26 voilà. minutes réalisé par Sébastien Vatel qui met en scène un dessin animé, quoi, des petits poissons, notamment Félix et Léon, qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et c'est un outil pédagogique, dit-on, donc pour les élèves de CM1 et de CM2. On a une bande-annonce, je crois.
Je vais t'offrir un monde aux mille et une splendeurs.
Eh bien moi, je pense que l'histoire des petits poissons, du baiser de la lune, eh bien je pense que c'est un film très poétique qui a certainement sa place en collège, mais pas à l'école primaire, parce que quand on a 9-10 ans,
si on a 9-10 ans,
on n'a pas besoin de cela, où les parents doivent répondre aux questions peut-être légitimes des enfants si elles existent. Alors, qu'à l'école, il faut écrire, lire et compter. Laissons l'enfance à l'enfant.
Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur.
Qu'est-ce qu'on va montrer ça à des enfants en primaire, enfin, alors quand on essaye de nous faire croire qu'un enfant a conscience déjà du désir amoureux, etc., je n'y crois pas une seule seconde. Ou alors vraiment.
Vous voulez dire au nom de tout ce que vous savez de la pédopsychiatrie ou bien juste une opinion que vous avez?
Non, mais c'est une opinion.
Je
m'en fous un peu.
Il y a quand même une sexualité infantile,
c'est. Oui, non, mais je m'en fous un peu.
Je n'y crois pas, c'est merveilleux.
Moi, j'ai aucune envie que mes enfants voient ça.
Par contre, entre une dame et un monsieur, il n'y aurait aucun souci.
Non, les hommes. Exactement.
Mon rêve bleu.
Moi, j'ai envie que mes enfants aient une sexualité hétérosexuelle. Et je pense que mes enfants, ma petite fille, je n'ai pas envie qu'elle soit confrontée tout de suite à ce genre de questions. Elle aura bien le temps de le faire. Je ne vois pas dans ce conte-là, je ne vois pas du tout une sensibilisation à l'anti-homophobie. Je vois au contraire une sensibilisation à l'homosexualité.
Sur un tapis volant.
On a le droit de dire aux gosses en CM2, on a le droit de dire aux gosses en CM2, les homosexuels sont à peu près des êtres humains comme les autres.
Un enfant, ça sait lire, écrire et compter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Ne ferme pas les yeux.
Ce que je sais, c'est que c'est évident que les mômes sont homophobes très naturellement, et que les quelques gosses qui commencent à devenir homosexuels... Attends,
vrai,
du calme, mais bien sûr aussi, quoi, PD, c'est pas une injure immédiate,
attends,
ça fait pas rigoler.
Mais laissons l'enfant avoir son enfance.
Et se développer.
C'est tout ce qu'il faut.
Sinon, on peut commenter des films de cul avec les enfants aussi.
Ça
sera...
Alors, mais ça existe.
Je veux dire, ça existe. Le film de cul. Non, si, la pornographie existe.
C'est un poisson-chat, là. On n'est pas là.
La pornographie existe. Il y a un accès libre sur Internet. On peut aussi dire demain, puisque ça existe, montrons-leur que c'est pas forcément sale de regarder des films de cul.
Mon rêve bleu.
Ton rêve bleu.
Paroles d'Aladin, c'est super, j'adore Disney.
Alors moi je suis pas très fan,
les
mais.
Les contes hétéronormés, quelle horreur.
C'est Aladin ça?
Oui, c'est Aladin, c'est Jasmine.
D'accord, okay. Enfin moi c'est pas Jasmine qui me fait débander, c'est quand même les propos qu'on a entendus.
Oui, t'as vu, hein. Alors En fait, dans tous ces extraits, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment... c'était complètement symptomatique de tout ce qu'on peut... de ce à quoi on peut être confronté au quotidien. Tu vois, c'est-à-dire l'espèce de voilà, le bon sens près de chez vous, le gros beauf qui sait tout, qui raisonne selon son bon sens et tout, et qui tient des propos.
En disant je souhaite pas ça à mes enfants, c'est difficile.
Ouais, voilà, sauf qu'il a des filles, Ménard, où il a une petite fille, et qu'être une fille, c'est aussi difficile dans notre société. Et donc, à ce compte-là, il avait qu'à la tuer à la naissance quand il a su que c'était une fille. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui est. Qui est incroyable, ou quand Lelouch quand il parle de l'injure première qui est une injure homophobe.
Ouais. C'est lequel qui dit ça ? J'ai pas repéré que l'homophobie est très naturelle chez les enfants. Ça, c'est absolument hallucinant, quoi.
Ouais.
Alors là, il s'est mal exprimé.
Ascolovitch qui dit ça.
Parce qu'il dit ça vient trop vite, c'est trop répandu. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il disait ça. Et c'est vrai, tout de suite, dès que tu arrêtes de courir comme un PD, dans tout, quoi.
En fait, c'est ça qu'il dénonçait. C'est ça qu'il dénonçait, et qu'en fait, il disait que l'injure première est une injure homophobe, c'est-à-dire la première injure qui vient à l'esprit d'un enfant dans la cour, c'est pédé, c'est enculé.
Parce qu'il répète
ce qu'il entend.
Exactement, on est d'accord. Dans la façon dont c'est exprimé, c'est là où c'est dangereux, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très naturelle, elle est complètement acquise.
Elle est acquise
très rapidement.
Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir en face la dénégation. C'est-à-dire qu'en face, alors que c'était tu fermé. Vois, en face, c'était « mais c'est n'importe quoi », tu vois.
Alors que c'est vraiment très répandu, moi ce qui m'a fait halluciner, c'est que, alors qu'on parle de ça ici entre nous en France, je me suis rendu compte que c'était pareil aux États-Unis. C'est-à-dire que pour dire « c'est trop nul », on dit « it's so gay ». C'est tellement gay.
Ouais.
Et du coup, en ce moment, il y a une grosse campagne qui a été lancée. Il y a pas mal de visages très célèbres qui font des petits clips. C'est long comme une pub. Et donc, on voit généralement des adolescents dans différents temps de la vie quotidienne dire « Oh, it's so gay », genre « c'est trop nul ». Et donc, t'as ta personne connue qui arrive qui dit « mais tu te rends compte de ce que tu dis ?» C'est comme si je disais, c'est tellement jeune homme de 14 ans avec une moustache à deux balles. Et donc la personne à qui elle s'adresse est tout à fait bien décrite par cela. Et donc toutes les petites pubs comme ça finissent par... Quand tu dis « it's so gay », est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis ? Arrête.
Intéressant. Moi, ce que ça m'évoque aussi, alors sans avoir vu le film, puisque on ne l'a pas vu,
eux non plus ne l'avaient pas vu.
Mais on a quand même vu quelques extraits. Alors ce que je trouve à l'époque de cette interdiction, ce que j'ai trouvé moi absolument incroyable, c'est que effectivement c'est un film qui s'adresse à des enfants de primaire ou de
CM2,
voilà.
C'est de niveau pour plus petits, voilà. Franchement, vu la lenteur de la narration, ça pourrait aller à des enfants plus jeunes.
Et surtout, ce qui est frappant, c'est que finalement, à aucun moment, il n'est question de sexualité. Il est question de quoi ? D'attirance, mais...
Et de lien affectif.
Et de lien affectif, effectivement. Donc, il est question de sentiment. Et finalement, moi, je pense que c'est ce qui les dérange fondamentalement, c'est ça. C'est pas forcément qu'on parle... d'éventuellement d'une homosexualité chez les enfants ou d'une attirance pour le même sexe chez un enfant, mais ce film-là montre et met en jeu des sentiments. Et c'est ça qui les fait flipper, finalement. C'est de réaliser que un enfant, effectivement, peut très tôt être attiré, avoir des sentiments pour une fille pour une fille, un garçon pour un garçon, donc par un être du même sexe que lui. C'est ça qui dérange finalement, c'est pas forcément l'attirance sexuelle, c'est éventuellement le sentiment qui va avec ou pas d'ailleurs.
Et c'est vraiment de l'homophobie parce que combien de personnes homosexuelles, enfin toutes, se construisent en étant entourées de contes qui sont hétérosexistes.
Bien sûr.
Tous.
Et qui parlent de sexualité. D'ailleurs, on sait depuis Bettelheim que les contes de fées, c'est que
super
du cul.
Violent. Mais c'est aussi super violent.
Du cul,
ils se fait tuer, on se fait abandonner.
Tu
on
vois,
se fait,
le baiser de la lune à côté, je veux dire, c'est la collection Harlequin. Enfin, tu vois, c'est nous deux. à côté du petit chaperon rouge et tout ça. Enfin, tu vois, c'est-à-dire que...
Moi, je trouve que c'est quand même aussi, ce que je voulais dire, c'est aussi prêter bien peu de crédit à l'imagination des enfants, puisque donc si les homosexuels grandissent quand même homosexuels et arrivent à s'identifier, bon, parfois au personnage du sexe opposé, pourquoi des petits-enfants pourraient pas rester dans leur tête hétérosexuelle, mais quand même s'identifier le temps de l'histoire à des personnages qui sont homosexuels?
C'est possible, ça sera le mot de la fin, malheureusement.
Ah, c'est
parce
dommage.
Que tu as quelque chose à rajouter, Gislain?
Non, non, mais c'est un sujet qui était vachement intéressant, parce que c'est d'une violence absolue, tu vois. C'est d'une violence absolue, cette dénégation, cette empêcher l'ouverture, empêcher le fait qu'il y ait des gens qui, à l'adolescence, vont peut-être se suicider parce qu'ils découvrent leur homosexualité. Parce que, enfin, tu vois, c'est d'une violence absolue.
Pour se représenter que ça existe,
on y reviendra. On y reviendra. Pour l'instant, on se quitte.
Au revoir.
Et bien, au revoir.
Ciao.